Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir, Christine Goémé, les cours du Collège de France. J'étais allée passer quelques mois en Grèce. Ce fut une excursion de plaisir et d'études. J'eus des chasses en Arcadie, je priais à Delphes. À Sparte, au bord de l'Eurotas, des bergers m'enseignèrent un air de flûte très ancien, étrange chant d'oiseau. Il y eut une noce paysanne qui dura toute la nuit. Mes compagnons et moi, nous osâmes nous mêler aux danses, ce que nous eussent interdit les lourdes mœurs de Rome. Consacrant sa dernière année d'enseignement au Collège de France à la vie d'Adrien, Denis Knopfler, titulaire de la chaire d'épigraphie et histoire des cités grecques, se plaît à citer cette page de Marguerite Yourcenar où elle évoque le second séjour d'Adrien en Grèce en 112, lorsqu'il n'est encore que l'héritier présomptif de Trajan. Belle manière d'introduire l'étude critique du troisième séjour qu'Adrien, devenu empereur, effectue à Athènes et dans le Péloponnèse au cours de l'automne 124. Denis Knopfler imagine en effet ce séjour plus officiel comme coloré par les souvenirs du voyage précédent, auquel Marguerite Yourcenar, nourrie de cultures virgiliennes et ovidiennes, donne une remarquable tonalité élégiaque. Peut-être aussi par ses premières impressions, lorsqu'à 16 ans, il passa quelques mois à Athènes auprès du rhéteur Isée. Le sable des palestres était toujours aussi blond qu'autrefois. Phidias et Socrate ne les fréquentaient plus, mais les jeunes hommes qui s'y exerçaient ressemblaient encore aux délicieux Charmides. Pour introduire ce nouveau chapitre consacré donc au troisième séjour d'Adrien en Grèce en 124 et plus particulièrement à son périple dans le Péloponnèse, Denis Knopfler rappelle aussi le discours prononcé à Corinthe par le jeune Adrien dans lequel il promet de veiller sur la Grèce et de l'aider à se relever. Devenu empereur, Adrien est maintenant en position de tenir ses promesses. C'est ce que nous allons voir en le suivant, sous la conduite de Denis Knopfler, à l'automne 124, dans son périple dans le Péloponnèse. Écoutez.
L'itinéraire même du voyage péloponnésien est loin d'être encore établi dans le détail. Une inscription d'Épidaure permet en revanche, comme on le verra dans un instant, de le dater assez précisément de l'arrière-automne 124, environ un mois après son arrivée à Athènes. Adrien dut passer d'abord par Mégare, cité d'importance moyenne, mais occupant une position stratégique, puisqu'il fallait nécessairement en traverser le territoire pour se rendre d'Athènes vers l'isthme de Corinthe. L'étape mégarienne est relativement bien documentée. On connaît depuis longtemps une série de bases de statues où non seulement l'empereur, mais aussi son épouse Sabine, nouvelle Déméter, sont honorées par chacune des trois tribus doriennes traditionnelles, les Uleis, les Dimanes et les Pamphuloi, auxquelles s'étaient ajoutées depuis peu, on le constate justement, les Adrianidae, ou membres de la tribu Adrianis. Donc, originellement, un ensemble de 8 socles. En 2007, ce dossier a fait l'objet d'une étude attentive de M. Adrian Robou, ex-assistant dans la chaire d'épigraphie grecque, qui est revenu sur l'interprétation historique des titres donnés là à Adrien, soit Ctistès, Nomothétès et Trophœus, nourricier. Pour montrer que celui de Ctistès, fondateur, ne pouvait guère se rapporter à la refonte partielle du système tribal mégarien, comme l'avait proposé naguère, après d'autres, un bon connaisseur des institutions civiques grecques, l'américain Nicholas Jones, à cause de l'existence de cette nouvelle fulée adrianiste. Le recours au mot ctistès doit se justifier, là comme ailleurs, par une opération édilitaire, concernant non pas chacune des tribus, mais l'ensemble de la polis mégaréone. De fait, il existe aussi pour Adrien une inscription honorifique, parfois omise, négligée, émanant de la cité de Mégare tout entière. D'autre part et surtout, Pausanias nous informe qu'Adrien dut rebâtir en marbre, chose nécessairement coûteuse, puisque cette pierre devait être acheminée depuis les carrières de l'Attique, le territoire de Mégare ne fournissant qu'une assez médiocre pierre coquillée, l'ancien temple d'Apollon Pythios, jusque-là construit en briques. Plintou men o Archaios Naos, très vénérable, certes, puisqu'il abritait une vieille idole de bois, un xoanon de type archaïque, mais sans doute en piteux état, car les briques dont il s'agit ici devaient être d'argile crue. Voilà pourquoi Adrien est qualifié de Pythios ou Neos Pythios dans nos inscriptions de Mégare. L'empereur n'avait évidemment point choisi au hasard l'édifice à restaurer à ses frais, puisque cet Apollon était précisément honoré à Mégare comme Archégétès, qui préside au commencement. Par là, Adrien voulait redonner à cette vieille cité une nouvelle jeunesse, d'où la reconnaissance que les Mégariens durent lui manifester sans tarder. Mais c'est seulement après 132, comme le prouve l'épiclèse Panhellénios, qu'ils érigèrent la série de statues honorifiques, quand le proconsul Julius Candidus était gouverneur d'Achaïe. Cela paraît prouver que les heureux effets de la générosité impériale se faisaient déjà alors sentir. Or, à en croire le même Pausanias, 1.36.3, dont je cite la traduction Paris aux belles lettres 1992, les Mégariens sont les seuls de toute la Grèce que l'empereur Adrien n'ait pu aider pour qu'ils développent leur cité davantage. Udo Basilois Adrianos oste kai epauktenai monois epergesen helenon. Mais cette traduction ne rend pas exactement compte de la négation forte qu'est Udé, pas même l'empereur Adrien. Car si ce dernier a échoué de l'avis du périégète, ce n'est pas sa faute à lui, mais à cause d'un inexpiable sacrilège commis par les Mégariens, un demi-millénaire plus tôt, à l'encontre des déesses d'Eleusis. On a donc là un curieux témoignage sur les conceptions religieuses du périégète, pénétré de la conviction que l'homme, même le plus puissant, et il ne doute certainement pas des moyens mis en œuvre par Adrien, ne peut rien changer aux arrêts de la divinité. Ce qui est remarquable aussi, c'est que Pausanias ait cru pouvoir faire ce constat d'échec, au moins relatif, une génération seulement après le passage de l'empereur, quand lui-même parcourait vers 150-160 l'Attique et la Mégaride. Avait-il des raisons objectives d'être à ce point pessimiste sur les possibilités qu'avaient les Mégariens d'échapper à l'antique malédiction prononcée contre eux pour connaître un nouvel essor? Sans doute est-ce plutôt de sa part un acte de foi dans l'infaillibilité des déesses d'Eleusis, de même que la marque de son admiration constante pour tout ce qui vient d'Athènes. En tout cas, il est une réalisation au moins qui dut contribuer, si peu que ce fût, à la prospérité de la ville. C'est, comme nous l'apprend ici encore Pausanias, 1.44, l'élargissement de la route entre Mégare et Corinthe, route qui était là particulièrement escarpée, puisque l'empereur se soucia, nous dit Pausanias, de la rendre assez large pour que des chars puissent se croiser. Oskai armata enantia et launestai, une borne milière datant de l'an 125, donc au lendemain du passage d'Adrien, atteste l'exécution de ces travaux, à mettre sans doute dans le cadre plus large d'un réaménagement des routes dans toute la province et au-delà peut-être aussi en Thessalie. En dépit des problèmes de circulation qu'il put rencontrer en chemin, l'empereur parvint ainsi à gagner le Péloponnèse. On ne sait toujours pas, il est vrai, dans quel sens il fit sa tournée de la péninsule. Peut-être se crut-il obligé de donner la priorité à la colonie romaine de Corinthe et même à celle de Patras, installée sur la côte nord. Mais rien ne nous empêche d'admettre qu'il commença en réalité sa visite par les vieilles cités grecques de l'Argolide. De toute façon, il paraît indiqué de commencer par Épidaure, qui a fourni, on l'a laissé entendre, un document des plus importants pour la chronologie. Cette inscription, il y en a même plusieurs, trouvée dans les fouilles du sanctuaire d'Épidaure, celui d'Asclépios, donc dès 1892, n'est certes qu'une dédicace à l'empereur, mais qui d'une part le qualifie de sauveur et de fondateur, sauteur caictistens, et d'autre part lui donne sa titulature officielle en précisant qu'il était dans sa huitième puissance tribunicienne des marquises exousias to eta. Cela permet de fixer son passage à Épidaure avant le 9 décembre 124, puisqu'il est admis par la plupart des spécialistes que le renouvellement de ce pouvoir avait lieu le 10 décembre de chaque année. C'est donc bel et bien vers la fin de l'automne 124 qu'Adrien fut en tournée dans le Péloponnèse. On ignore en revanche ce qu'il fit exactement en faveur de la cité d'Épidaure et de son grand sanctuaire extra-muros. Pausanias est muet là-dessus. On peut toutefois supposer un important appui financier, les deux titres de sauveur et de fondateur n'ayant pu être conférés à la légère. Il ressort d'une autre inscription que les épidauriens allèrent jusqu'à faire débuter une ère nouvelle avec l'épidémia, le séjour d'Adrien dans leur pays. Ce document capital établit en effet un synchronisme entre la dixième année depuis le passage d'Adrien et tous des décatous Tes Traianu Adrianu Caesaros Epidemias et la troisième année d'une ère plus récente encore, dont le point de départ était la consécration du temple de Zeus Olympien et de la fondation du Panhellénion à Athènes, soit l'année 131, ce qui a permis d'établir que le voyage de l'empereur datait bien, lui, de 124. Enfin, ce n'est pas sans raison qu'Anthony Burley, dans sa monographie sur Adrien, a supposé qu'un homme avait dû jouer un rôle particulier dans la faveur manifestée par l'empereur pour cette modeste, mais tout de même assez illustre cité d'Épidaure. D'origine épidaurienne, en effet, se trouvait être l'équestre, le chevalier Gnaeus Cornelius Pulcher, dont nous dirons un mot in fine, une fois parvenu à Corinthe, ville qui était sa seconde patrie. D'Épidaure, Adrien s'est à coup sûr dirigé vers Argos, mais en faisant le tour de la péninsule de l'Argolide, comme le suggèrent des inscriptions de Trézène d'abord et d'Hermionée ensuite. Le document trézénien est bien intéressant, même si Adrien n'y figure pas nommément. C'est en effet une inscription honorant un bienfaiteur local qui est remercié pour avoir fait réparer à ses frais une route carrossable à l'occasion du séjour du très grand empereur Kataten Epidemian tou Megistou Autokratoros. Et il ne peut s'agir à cette date que d'Adrien. Et l'on voit ainsi une chose très importante, c'est que la visite impériale créait une espèce d'émulation parmi les notables des localités traversées. On en verra d'autres exemples à Sparte et à Mécène. De Trézène, dont le nom évoquait sans doute plus d'un souvenir littéraire chez Adrien, au moins pour ce qui se rapportait au héros Thésée et aussi peut-être au fameux décret de Thémistocle. L'empereur passa donc à Hermione, comme l'implique une statue élevée à l'impératrice Sabine. À l'époque de Pausanias, le site historique avait été abandonné au profit d'une ville construite dans la plaine, avec accès direct à deux ports bien protégés. Cela rend compte d'une remarquable épiclèse dans une inscription d'Hermione qui honore non pas Adrien, certes, mais Trajan en tant que Zeus Embaterios, dieu qui préside à l'embarquement. Le vainqueur de Décébale, il porte déjà le titre de Dakikos, mais pas encore celui de Partikos, vainqueur des Partes, ce qui avait d'emblée permis de placer la dédicace dans une courte fourchette chronologique entre 106 et 115. Mais en 1961, dans une note en bas de page d'un article de la revue des études anciennes, portant sur toute autre chose, notre maître Louis Robert montrait que cette peu banale épiclèse devait être mise en relation avec une escale que Trajan et toute la flotte romaine avaient dû faire dans la baie bien protégée d'Hermione en octobre 113, lors du voyage d'Italie vers la Syrie, après avoir franchi le cap Malais au sud et avant de relâcher au Pirée. Au moment donc de son embarquement, Embassis, on avait dû faire des vœux pour le succès de la grande expédition contre les Parthes. Il est vrai que d'aucuns, aujourd'hui, voudraient donner à l'épiclèse Embaterios une valeur plus générale, sans rapport direct avec l'épisode en question. L'exégèse du grand épigraphiste nous paraît cependant bien préférable. En tout cas, rien n'interdirait ou n'interdit de penser qu'Adrien était passé une première fois à Hermione, 11 ans plus tôt, en compagnie de Trajan, puisqu'il avait dû accompagner l'Optimus Princeps dans son voyage en Orient, on l'avait vu. Si donc Marguerite Yourcenar n'avait pas été convaincue, et à tort, on s'en souvient peut-être, que son héros était arrivé à Antioche pour gouverner la Syrie bien avant l'empereur et toute la cour, elle aurait pu imaginer un Adrien découvrant, lors de sa tournée de 124, l'inscription d'Hermione et méditant alors sur la fragilité des choses humaines, illustrée par le destin de son prédécesseur, embarquant tel un dieu qu'on acclame, puis obligé, moins d'un lustre plus tard, de débarquer dans un port de la lointaine Cilicie pour y succomber à la maladie. Mais poursuivons notre voyage péloponnésien. Adrien finit donc par arriver à Argos, qui demeurait, en dépit du jugement dépréciatif de Dion de Pruse, l'une des principales cités de la péninsule. Grâce aux fouilles franco-helléniques menées sur ce site depuis assez exactement un siècle, sa topographie et son histoire sont relativement bien connues. On dispose au surplus pour Argos et son territoire d'une description substantielle de Pausanias dans son livre 2. Il est curieux d'avoir dans les raïones, principal sanctuaire hors les murs de cette cité, les fragments d'une base de statue pour Adrien qui date à coup sûr de l'an 123, comme si les Argiens avaient prévu que l'empereur passerait chez eux au retour de son long périple oriental, ou peut-être parce qu'ils avaient déjà reçu à cette date une réponse positive à telle ou telle de leurs requêtes. En tout cas, on peut aisément supposer que, venant d'Hermione, Adrien commença sa visite par les raïones, en faisant éventuellement un petit crochet vers le nord pour visiter, en souvenir peut-être des sombres drames dont cette citadelle avait été le théâtre dans l'épopée, ce que fit d'ailleurs Pausanias un peu plus tard, le site de Mycène. Au témoignage de Pausanias, en tout cas, l'empereur tint à manifester sa piété à l'égard de la grande Héra en lui consacrant un objet des plus rares, un paon en or, orné de pierres précieuses. C'est que le paon, note le Périégète, est considéré comme un oiseau sacré des rats. Ce qui prouve, peut-on ajouter, qu'Adrien connaissait le mythe argien de la malheureuse Io, changée en vache, retenue prisonnière sur l'ordre de la déesse par le gardien Argus, dont les yeux innombrables vinrent orner, après sa mort, les plumes du splendide volatile. Si Pausanias ne dit rien des concours en l'honneur d'Héra, d'ailleurs transféré en ville d'Argos, il impute en revanche à Adrien une innovation, sans doute plutôt un retour en arrière, dans l'organisation des concours des Néméias, qui depuis longtemps avaient été annexés par les Argiens. Mais à l'époque de Pausanias encore, ceux-ci continuaient à célébrer des Néméias d'hiver dans le sanctuaire de Némée, lequel était alors largement abandonné. C'est ce concours athlétique que l'empereur réforma, mais pas nécessairement à l'occasion de sa visite de 124, en y introduisant une épreuve dite hippios, une course de demi-fond longue de 4 stades, peut-être sortie de l'usage. En elle-même, d'assez faible portée, cette décision montre l'intérêt qu'Adrien portait à l'organisation des grands concours grecs, comme en témoigne désormais avec éclat le dossier d'Alexandrie de Troade à examiner ultérieurement. C'est que les Néméias, en dépit de toutes les innovations de l'époque hellénistique et impériale, occupaient toujours une position de premier plan dans la hiérarchie agonistique, à côté des trois autres concours dits de l'Archaïa Périodos, le prestigieux circuit qui constituait pour les athlètes en particulier la tournée des Olympiades, des Pythias de Delphes et des Isthmias de Corinthe, une espèce de grand chelem, si l'on veut. Il est singulier que Pausanias, si disert par ailleurs sur les antiquités d'Argos, n'ait pas dit un mot des libéralités d'Adrien en matière de construction ou de restauration d'édifices dans cette cité. Mais deux trouvailles épigraphiques, faites par l'archéologue néerlandais Wilhelm Volgraaf, à qui incomba le privilège d'ouvrir le chantier d'Argos au nom de l'école française d'Athènes, voici un siècle, sont venues opportunément prouver que l'empereur n'y fut point inactif. La première inscription se rapporte à une adduction d'eau, Dragogion, comme on a pu l'inférer de son lieu de trouvaille. Elle a permis, en effet, d'attribuer à Adrien la construction de l'aqueduc romain qui court sur une trentaine de kilomètres au nord-est de la ville pour venir alimenter une fontaine monumentale, un nymphée pas très éloigné du théâtre. On a d'ailleurs pu supposer qu'une statue acéphale trouvée dans le bassin de cet édifice pouvait être celle du héros Diomède, chef du contingent argien à Troie, auquel Adrien aurait pu être identifié en tant que nouveau fondateur de la ville. Il existe en tout cas une telle statue d'Adrien représentée dans la nudité dite héroïque. Ce qui paraît sûr, c'est que la titulature de l'empereur indique l'année 124, 8e puissance tribunicienne, confirmant ainsi la date assignée au voyage péloponnésien. Adrien se soucia donc d'assurer l'approvisionnement en eau de cette ville, comme il le fit en tant d'autres cités de l'Empire. C'était même, au dire de l'histoire Auguste, l'une de ses préoccupations majeures. La seconde inscription faisait problème, puisque le nom même de l'édifice qu'Adrien restaura après sa destruction par un incendie, Hupo Empresmo, avait disparu avec la perte de toute la partie gauche de cette plaque de marbre. Volgraaf avait proposé de restituer le mot théatron, car la pierre avait été découverte dans les ruines du grand théâtre d'Argos, au pied de la citadelle. Non sans raison, la restitution parut douteuse à certains, mais elle fut adoptée avec confiance par d'autres. Ainsi encore l'historienne américaine Mary Boatwright, auteur d'un ouvrage désormais bien connu sur Hadrian and the Cities of the Roman Empire, paru en l'an 2000. Pourtant, on sait depuis une vingtaine d'années, grâce surtout à deux études du professeur Marcel Pierrard, publiées en 1995, que cette restitution est erronée. En effet, la fouille d'un puits tardif au milieu de l'agora d'Argos a mis précisément au jour, brisé en 17 morceaux, mais qui sont raccordables, cette partie gauche de la plaque Folgrave. Seul le tiers droit manque encore à la pelle ou à la pioche. Or, c'est le nom de la déesse Héra, Thès Héras, qu'on lit très clairement à la ligne 4. Comme l'a bien vu le nouvel éditeur, l'édifice restauré par Hadrien était donc nécessairement le temple d'Héra, Ton, Naon, Thès, Héra, c'est pas du tout le théâtre. Mais quel temple de cette divinité honorait Argos en plusieurs points de la ville et du territoire? Connaisseur hors pair de l'histoire et de la topographie argienne, notre camarade Marcel Pierrard a opté, avec raison peut-être, pour la solution la plus économique, qui consiste à voir dans ce temple l'un des deux lieux de culte consacrés à Héra, à Argos même. Carpozanias signale un temple Naos d'Héra Anteia, Naos de Anteia, et un sanctuaire Hieron d'Athéna Acraia. J'avoue cependant rester un peu sceptique devant cette exégèse. Ce qui me gêne, ce n'est pas tant le fait que ni l'un ni l'autre de ces sanctuaires n'aient été sûrement localisés, mais leur faible notoriété à tous deux, et plus encore leur éloignement du centre civique. Le second était même situé assez haut sur la Larissa. N'est-on pas acculé à penser que le seul sanctuaire des rats qui pouvait intéresser et qui comptait véritablement aux yeux d'Hadrien était celui de l'Héraïon Extramuros. Or, il est certain que celui-ci périclita au Bas-Empire. On pourrait donc admettre aisément que la très belle plaque de marbre qui portait la dédicace de l'empereur fut au 3e ou 4e siècle de notre ère transportée en ville pour y être remployée. Il ne faut pas perdre de vue que c'est vers 400 seulement après Jésus-Christ qu'elle fut intentionnellement brisée, sans doute à cause de la mention justement d'Héra. Je pense donc que le temple restauré par Hadrien a bien des chances d'être tout simplement celui de l'Héraïon, endommagé par le feu. Cet incendie, Empress Mos, il est certes loisible d'admettre qu'il avait pu survenir à n'importe quel moment, mais sera-t-on taxé d'excessive audace si l'on songe en priorité au grand incendie qui, au témoignage de Thucydide lui-même, ravagea ce temple en 423 avant Jésus-Christ suite à une négligence de la prêtresse? Voilà un événement bien trop lointain, objectera-t-on aussitôt. Le temple, dans l'intervalle, avait dû être maintes fois réparé. Oui, assurément, puisque de l'aveu des meilleurs connaisseurs, l'édifice qui contenait les statues et les offrandes décrites par Pausanias avait été mis en chantier aux alentours de 440 et qu'il était encore en phase d'aménagement lorsqu'il brûla en partie. Il n'empêche que c'est toujours à ce même incendie que songe Pausanias quand il se trouve sur place en croyant à tort que le temple calciné était celui dont il voyait les vestiges sur la terrasse supérieure. Au début du IIe siècle de notre ère, le grand temple classique était toujours debout, mais il devait avoir besoin d'une sérieuse remise à neuf. Voilà ce qu'Hadrien a voulu accomplir pour les Argiens. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas de faire réparer un temple de quartier dont le toit est parti en fumée. Il tient à mettre la dernière main à un grand ouvrage laissé inachevé ou endommagé, à parachever la construction de l'Olympiéion des Pisistratides à Athènes, celle du temple de Zeus élevé par les Attalides à Cyzique, à réparer le temple de Dionysos dessiné par l'architecte Hermogène à Théos, celui d'Apollon Pythios à Mégare, nous venons de le voir. Il veut redresser le colosse de Rhodes et partout restaurer les tombeaux des grands hommes du passé. De cet esprit d'archéologue restaurateur qui anime partout l'action d'Adrien, on va voir dans un instant un bel exemple. Avant de quitter Argos, disons encore un mot du statut de cette cité à l'époque du voyage impérial de 124-125 en Grèce. Il n'est pas douteux que c'était alors, comme le marque justement Marcel Pierrard, le centre de la confédération achéenne, to Achaïon ou Achaïcon Sunédrion. L'empereur dut très certainement y tenir un discours devant les délégués des cités achéennes réunies sans doute au théâtre. Cela ressort d'ailleurs d'une lettre qu'Adrien lui-même écrivit en l'an 126 aux Achéens après être rentré à Rome. Lettre où il déclare décliner les honneurs supplémentaires que lui ont voté les Achéens après son départ. En effet, le décret pris alors par le Koinon prescrit d'afficher tout ce dossier à Argos, si Athènes, et les sanctuaires panhelléniques d'Olympie, de Delphes et de l'Isthme sont également mentionnés comme lieu d'exposition, c'est pour assurer une plus large diffusion de la lettre impériale au sein de la province romaine d'Achaïe, entité administrative bien distincte de la confédération achéenne, qui, elle, ne s'étend pas à l'ensemble de la province, ni même à la totalité du Péloponnèse. Plusieurs cités se tiennent en dehors de ce cadre. La participation de Corinthe au Koinon est certes aujourd'hui admise par les spécialistes, mais cette colonie romaine, résidence du gouverneur, ne pouvait pas être en même temps la ville principale de la Confédération. Pour Pausanias, la primauté d'Argos sur Corinthe, en dépit du rang occupé par cette dernière à l'échelon de la province, est mise en évidence par le fait qu'il appelle Argolis Sungraphe, le livre 2 de sa périégèse, que nous appelons, nous, Corinthiaca, dans le sillage de la tradition byzantine. Dès lors, il convient d'expliquer autrement, je crois, qu'on ne le fait d'ordinaire, l'expression « to argolikon », accompagnée au nom du mot « synédrion », que l'on trouve en deux passages du livre 8. Il ne doit pas s'agir d'une confédération argienne, qui se serait constituée, nous dit-on, au sein du Koinon à Caïon, et l'aurait même quittée en entraînant dans sa sécession quelques cités d'Arcadie, telles Stymphale et Aléa. Non, cette expression, absente, notons-le, des inscriptions qui ne connaissent que le Koinon Achaïon et le Koinon Arcadon, doit désigner tout simplement, croirais-je, la confédération achéenne, elle-même dominée à cette époque par la grande cité d'Argos. On pourra voir là-dessus la récente prise de position de Marcel Pierrard, qui semble vouloir partager à quelques nuances près mon opinion, et cela dans un volume collectif, Roman Peloponnesos, édité par Athanasios Rizakis, autre excellent connaisseur de l'Achaïe grecque et romaine. Au sortir d'Argos, Adrien se dirigea à coup sûr vers les cités de l'Arcadie. La traversée de ce pays est même le seul tronçon du voyage qui soit évoqué dans mémoire d'Adrien. Pourquoi ? C'est que l'empereur, on s'en souvient, est censé être accompagné du bel Antinous, qu'il aurait rencontré l'automne précédent à Nicomédie. Or, Antinous, en tant que ressortissant de la ville de Bithynion Claudiopolis, avait des attaches avec la cité de Mantinée, métropole de Bithynion. Telle était du moins l'origine quasi mythique qu'Adrien s'employa à propager après la mort de son bien-aimé. Dans sa tournée de 124, déjà par conséquent, il l'aurait eu à ses côtés. J'emmenais Antinous dans l'Arcadie de ses ancêtres. Les forêts y restaient aussi impénétrables qu'au temps où les antiques chasseurs de loups y avaient vécu. Écrit l'empereur pour introduire le récit d'un épisode de chasse impliquant la participation du jeune garçon et surtout pour se remémorer le séjour mantinéen. Les gens de Mantinée se découvrirent des liens de parenté avec cette famille de colons bithyniens, cette ville où l'enfant eut plus tard, ses temples fut par moi enrichi et orné. Page 124. Marguerite Yourcenar mêle ainsi habilement, ou en tout cas relie avec beaucoup d'art, deux moments en réalité séparés par une demi-douzaine d'années. Le voyage de 124 et les honneurs posthumes conférés à Antinous après sa mort en 130. Mais il faut bien voir que si les honneurs en question sont très bien attestés par Pausanias, et cette page des Arcadicas est même un témoignage essentiel pour l'étude du culte d'Antinous dans l'Empire romain, on sait relativement peu de choses, en revanche, sur ce qu'Adrien fit lors de son passage, son propre passage à Mantinée. Car même dans le cas où Antinous aurait été du voyage, chose fort douteuse, rien ne saurait avoir été entrepris à cette date pour inciter les Mantinéens à honorer le jeune homme aux côtés d'Adrien. L'effort de l'empereur en 124-125 paraît avoir porté principalement sur un sanctuaire situé hors les murs, aussi vénérable que l'étaient les raïons d'Argos, et sans doute lui aussi plus ou moins délabré, le temple de Poséidon Hippios, maître des chevaux, qu'il fit reconstruire selon une méthode originale, bien caractéristique ici encore des préoccupations de cet empereur antiquaire. La description de Pausanias vaut la peine d'être citée. 8-10, le sanctuaire actuel, to hieron, to ephemon, est une construction d'Adrien qui plaça les ouvriers sous l'autorité de surveillants pour que nul ne jeta un regard sur l'ancien sanctuaire, to hieron, to archaion, et ne déplaça quoi que ce soit de ses débris. Il leur ordonna de construire le nouveau temple, to naon, to kainon, tout autour. Fin de la citation. Tant de précautions s'expliquait par le fait que l'édifice primitif, construit en bois, passait pour être l'œuvre de deux architectes mythiques originaires de Béotie, Agamédès et Trophonios. Comme l'indique Madeleine Jost dans son commentaire des Arcadicas, le sanctuaire de Poséidon Hippios était depuis longtemps localisé de manière approximative par des trouvailles en surface quand, il y a une quinzaine d'années, les fondations du temple lui-même furent mises au jour. Mais cette fouille paraît être restée inédite, de sorte qu'il est impossible, pour l'heure, de confronter le texte de Pausanias aux vestiges conservés in situ. Une autre entreprise d'Adrien est signalée par le Périégète aux abords de Mantinée. On sait que cette ville avait été le théâtre de plusieurs batailles dans l'histoire grecque. L'une est célèbre parce qu'elle a ouvert en 362 avant Jésus-Christ une période de confusion avec la mort d'Épaminondas, l'homme d'État et grand capitaine thébain si admiré de Plutarque. Son tombeau se dressait en bordure du champ de bataille, à environ 6 km au sud de Mantinée. Or, Adrien ne se contenta pas de rendre hommage à cet homme, dont la biographie lui était sans doute familière. Il fit ajouter une stèle avec une épigramme de sa composition, passage de 8-11, cette inscription qui était en dialecte béotien, une épigramme à côté de l'inscription en dialecte béotien que portait une colonne où se voyaient un bouclier et un dragon. Claire allusion, comme l'a compris Pausanias lui-même, au mythe thébain de Cadmos, vainqueur du dragon dont était issus, les héros tutélaires appelés Spartoi, nés de la terre même. L'évocation de cet épisode chez Marguerite Yourcenar s'inspire assurément de Pausanias, mais en ajoutant un élément puisé à une autre source, le traité de Plutarque sur l'amour, selon qui le jeune Cafisodoros, tombé en même temps que Epaminondas, avait été inhumé avec lui. Or, cela était capital dans l'esprit de l'auteur des mémoires. Epaminondas n'est pas seul dans son tombeau. Il repose, dit Adrien, auprès d'un jeune compagnon frappé à ses côtés. Page 166. Ce constat résonne donc à la fois comme un vœu secrètement émis lors du voyage de 124, et déjà comme un regret qu'exprime le vieil empereur, qui eut tant souhaité avoir un Antinoüs, un compagnon pour l'éternité, comme le chef thébain. De Mantinée à Lacédémone, la route passait par Tégée, où la présence d'Adrien est attestée par l'épigraphie, notamment de documents qui prouvent qu'une ère nouvelle, là aussi, il fut instauré à dater de l'apparition, de la parousia ou épidémia du dieu Adrien en Grèce. Chose remarquable, Pausanias ne dit rien du séjour d'Adrien à Sparte, quand bien même il consacre tout son livre 3 aux antiquités de la Laconie. Cela s'explique en partie que Marguerite Yourcenar, à son tour, n'évoque pas ce passage, même si elle prête à son héros, hors de ce contexte, une réflexion tout à fait élogieuse sur l'idéal spartiate à travers la poésie du vieux Terpandre. Le mode de vie parfait dont Lacédémone a rêvé sans jamais l'atteindre, la force, la justice et les muses. Il est sûr néanmoins qu'Adrien a puissamment contribué à rétablir la cité de Sparte dans son antique prestige et aussi dans sa prospérité d'antan. Si l'on peut cependant se borner ici à présenter succinctement l'étape lacédémonienne du voyage de 124-125, ce n'est donc pas faute de matière, mais d'abord parce que l'essentiel a été dit après divers articles de Bowersock dans Hellenistic and Roman Sparta, A Tale of Two Cities, en 1989, réédité en 2002, livre dont Anthony Spofforth est l'auteur pour la section romaine. Reste toujours inédite, il est vrai, une importante inscription de Sparte datant de la fin du règne d'Adrien et relative à la fondation publique établie par le sénateur Julius Euryclès Herculanus, rejeton de la lignée des Euryclides, qui était une véritable dynastie laconienne pour laquelle on pourra se reporter à un article de Jean-Sébastien Balza dans le volume collectif « Le Péloponnèse d'Epaminondas » à Adrien, justement, 2008. C'est vraisemblablement ce personnage qui accueillit l'empereur à Lacédémone en 124-5, ou alors un peu plus tard, puisque en 128, comme il découle d'une autre inscription connue, Adrien fit un second séjour à Sparte, en venant sans doute cette fois du port de Gythéon. De fait, la plupart des bienfaits accordés par l'empereur aux Spartiates paraissent dater des années 130, après la création du Panhellénion athénien, et doivent par conséquent être examinés dans un autre cadre. Les euergetemata, qui remontent au premier voyage, se ramènent à deux ou trois seulement, comme la construction très probable, là aussi, d'un aqueduc, mais jusqu'ici, semble-t-il, sans preuve épigraphique. Un accroissement territorial représenté par l'acquisition, grâce à l'empereur, du port de Coronea dans le golfe de Messénie, et comme aussi de la petite minuscule île de Caudos au large de la Laconie. Chose que Louis Robert, dès 1940, sut très ingénieusement inférer du titre de Epimeletes Caudou, qui n'avait pas été compris dans un cursus honorum de l'époque adrienne. C'est seulement vers 136, en revanche, que les Spartiates purent remettre la main sur la grande île de Cythère, grâce à l'action conjuguée, selon toute apparence, de Riclès, le dynaste quasiment, et Adrien lui-même. On ne sache pas que l'empereur ait entrepris, dès 125, la réfection d'un grand sanctuaire lacédémonien, à moins de supposer qu'au moment de la mise en chantier du temple de Zeus, Soter Olympios, un édifice qui a été vu une génération plus tard par Pausanias, chapitre 12 du livre 3, le dieu ne portait pas encore cet épiclèse Olympios qui fait écho au titre adopté plus tard par Adrien lui-même quand furent entrepris à Athènes les travaux justement de l'Olympieion. Mais le caractère relativement modeste des libéralités du prince dans cette première phase de ses relations avec Sparte ne saurait être interprété comme une marque de réticence à l'égard de l'agogé, de l'éducation spartiate, car l'empereur devait en être un admirateur, sinon un adepte, comme la plupart des intellectuels grecs, et romains d'ailleurs, depuis Platon. Il faut toujours avoir présent à l'esprit, au surplus, que notre information demeure terriblement lacunaire. Le cas de la ville de Mécène, voisine de Sparte, au-delà du Tégète, l'illustre bien. Cette cité, bâtie à partir de 369 avant Jésus-Christ, et pas Minondas justement, était restée jusqu'à une date récente un trou noir dans la bibliographie sur Adrien. Chose significative, le nom de Mécène ne figure pas même sur la carte de la Grèce donnée dans la synthèse encore récente d'Anthony Burley. Or, il paraît aujourd'hui bien difficile de croire que l'empereur omit de visiter cette ville en 124-125. Les fouilles menées par la Société archéologique d'Athènes sous la direction de notre collègue, le professeur Petros Themelis, ont en effet mis au jour un centre extrêmement prospère à l'époque impériale, bénéficiant de toutes les commodités urbanistique possible dans un site admirablement aménagé. Il est vrai que Pausanias, qui décrit l'agora de Mécène de manière assez détaillée, n'y mentionne aucune consécration faite par Adrien ou pour Adrien, aucun édifice construit à ses frais. Mais ce silence n'a pas grande signification, puisque l'on vient de constater le même mutisme à propos de Sparte. Une première raison pour Adrien d'aller à Mécène, ville qui certes n'avait pas un prestige tout à fait égal à celui d'Argos ou de Lacédémone, était, je pense, d'honorer là aussi la mémoire d'Épaminondas, car le chef thébain, en tant que fondateur de la nouvelle cité un demi-millénaire plus tôt, il y avait un Néroon, décrit par Pausanias, en bordure du grand Asclépion, découvert par les fouilles, pseudo-agora, sans parler d'une autre statue en fer, celle-là, dans le bâtiment appelé Hierotusion. Qu'Épaminondas ait toujours été, en ce début du IIe siècle, honoré par les Mécéniens, ne ressort pas seulement de la périégèse, on peut en trouver une preuve épigraphique dans le fait que l'un des principaux notables de cette époque, le grand prêtre du culte impérial, Tiberius Claudius Crispianus, membre de l'ordre équestre, rejeton d'une famille où se transmettait le nom du héros et mécénien par excellence, Aristoménès, reçut aux alentours de 140, au témoignage de diverses inscriptions, le titre de « Nouvelle Épaminondas ». Neos Epaminondas, Adrien pourrait avoir eu un autre motif encore de se rendre à Mécène. C'est qu'il était certainement en contact avec un personnage plus éminent encore dans cette cité, Tiberius Claudius Saitidas Caelianus, connu lui et sa famille par plusieurs documents qui permettent de situer sa carrière à l'époque même d'Adrien, mais aussi par une mention chez Pausanias, à propos de son monument funéraire, qui paraît l'avoir connu personnellement. Il serait donc temps que les éditeurs de Pausanias renoncent à la leçon fautive Aitidas, qui est religieusement reproduite est moins que jamais défendable pour adopter enfin la forme seule correcte, Saïtidas. Une longue inscription du théâtre, encore partiellement inédite, témoigne de la place occupée par cette famille, tandis qu'une autre dédicace montre qu'il était encore, qu'il était en 139, toujours vivant, donc au début du règne d'Antonin. Mieux, une base pour l'impératrice Sabine vient d'être mise au jour et elle fait référence à un décret des Achéens qui pourrait bien, me semble-t-il, être celui de 126 sur les honneurs octroyés à Adrien. Il paraît ainsi très probable que Saïtidas, dès avant d'accéder vers 138 à la dignité suprême d'Elladarque et de grand prêtre du Koinon d'Achaïe, avait dû faire autrefois tout son possible pour attirer l'empereur à Mécène depuis Sparte. On ne voit guère du reste comment Adrien aurait pu ne point passer par la Mécénie dans son voyage de retour vers le nord du Péloponnèse. Sa venue à Lycosoura, dans le territoire de Mégalépolis, est rendue très probable par une inscription copiée sur place et des monnaies du règne d'Adrien, recueillies naguère à l'endroit même où se dressait la statue de la déesse Despoina, œuvre du sculpteur de Mécène Damophon, donnent à penser que cette statue fut non pas certes créée, mais restaurée à l'époque du voyage d'Adrien. Il est bien difficile de dire, en revanche, si l'empereur suivit ensuite le cours de l'Alphée jusqu'à Olympie, ou si plutôt il atteignit le sanctuaire après un voyage en mer, débarquant près du cap Phéa. On notera l'existence d'une importante voie romaine dans ce secteur, attestée par une borne milliaire que la titulature de Trajan permet de dater de l'an 115. Si l'on en croit l'étude récente de Sophia Zoumbakis sur Hélice et Olympie à l'époque impériale, Adrien ne se soucia guère des affaires de l'Élide, mais il ne put négliger complètement Olympie, même si on n'a pas encore la preuve formelle de son passage. La prise en charge d'une restauration de la fameuse et si fragile statue chryséléphantine de Phidias est cependant de l'ordre du probable. Comment croire au surplus que le futur Adrianos, Panhellenios, Olympios n'ait pas tenu à visiter le site des concours olympiques, lui qui devait favoriser partout la création d'Olympia, calqué sur les institutions d'Olympie bien des traits de son futur Panhellenion. De là, il put gagner Patras, la colonie romaine en plein essor, où certes on n'a pas non plus de preuves absolues de son passage, à en juger par le récent corpus des inscriptions de cette colonie par Athanasios Rhizakis. Pour ce qui est de Corinthe, enfin, la contribution de l'empereur à l'aménagement de la ville est attestée par Pausanias, qui signale en tout cas des loutras dans cette ville, et l'archéologie, d'autre part, fait connaître l'existence d'un arc élevé d'abord par Domitien, complété ensuite par Trajan, achevé par Adrien, d'où la présence du monument sur des monnaies, ces monnaies qui montrent l'arc d'Adrien à Corinthe. Relevons enfin que durant tout son voyage péloponnésien, Adrien fut accompagné par l'homme qui était sans doute le plus en vue alors de la province d'Achaïe, l'épidaurien Cneius Cornelius Pulcher, connu d'abord dans sa petite patrie, avant d'entamer une brillante carrière municipale à Corinthe, tout en suivant le cursus équestre à un échelon plus élevé, puisque vers la fin du règne de Trajan déjà, il s'était vu confier le gouvernement de la petite province d'Épire, avec le titre de procurateur, comme l'enseigne une inscription honorifique de Trézène souvent étudiée, qui montre aussi que Pulcher était grand prêtre du culte impérial pour l'Achaïe et secrétaire du koinon achéen. Mais c'est seulement quelques années plus tard, vers 125-128, qu'il put ajouter à ses titres celui d'Eladarque, Eladarques, chef des Grecs, titre nouveau, mais appelé à durer, car il sera désormais couplé à celui de grand prêtre à vie du culte impérial, archiéreus diabiou ton sebaston. On peut donc admettre, sur la base des travaux qui ont été consacrés à la carrière de ce Cornelius Pulcher, que l'Eladarchie est une création d'Adrien peu après son voyage péloponnésien. Elle témoigne de la volonté de promouvoir l'unité et la visibilité, dirait-on aujourd'hui, de la vieille Grèce, car l'Hellas d'Arc ne préside pas seulement le koinon achaïon au sens restreint du terme, mais l'ensemble des koinas de la Grèce centrale, à savoir les Achéens, mais les Béotiens, les Eubéens et d'autres. On verra en effet que, contrairement à l'opinion communiste, cette association dite des Panachéens n'avait certainement pas disparu à l'époque d'Adrien. Pour autant, ce synédrion panakaikon ne se confondait pas avec l'association bien plus ancienne et plus prestigieuse qu'était l'Amphictyonie de Delphes et des Piles, puisque celle-ci englobait non seulement les peuples déjà mentionnés, mais également les Thessaliens et ceux que l'empereur Auguste avait regroupés autour de la ville de la Victoire, Nicopolis, pour commémorer son succès décisif de l'an 31 avant Jésus-Christ, modifiant ainsi l'équilibre des ethnées et des poleis au sein de l'Amphictyonie. Or, là aussi, Adrien crée une nouvelle fonction présidentielle appelée également Helladarchie.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec Denis Knopfler, titulaire de la chaire d'épigraphie et histoire des cités grecques. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation Anne Sécheret. Présentation, Christine Goémé. Rendez-vous demain pour la suite du cours de Denis Knopfler, qui nous parle de ce que nous savons aujourd'hui de l'empereur Adrien. Belle journée à tous, à l'écoute de France Culture.